Si Dieu aujourd'hui parle de la peur, c'est que Dieu sait qu'il y a des événements qui vont arriver, il y a des combats qui arrivent. Mais pour que nous soyons vainqueurs de ces combats, il va falloir que nous ne fuyons pas.
Les obstacles, c'est une force extérieure qui vient s'opposer à vous dans le but de vous empêcher de réaliser votre désir.
Il n'y a pas d'exploit sans guerre. Quand on parle d'exploit, c'est qu'on parle de lutte. C'est qu'on parle d'acharnement, c'est qu'on parle de guerre.
Notez ceci, peu de personnes voient en la défaite un appel urgent à redoubler l'effort. C'est-à-dire, quand vous avez connu la défaite, ne vous dites pas que c'est la fin. La défaite vous lance un message, redouble l'effort.
C'est une année où ce que nous aurons, nous allons l'obtenir au prix de notre victoire.
Enseignement numéro 8.
Dieu a prévu des choses pour ta vie, Dieu a prévu des choses pour ma vie. Mais pour rentrer dans ces choses, nous devons tout simplement être simples et les accepter telles que Dieu nous les présente. Alléluia. Et lorsque nous les acceptons, Dieu nous oint. Et l'onction de Dieu dans notre vie sur le divin sur du naturel, afin de rendre possible ce que humainement parlant est impossible. Et quand l'onction de Dieu vient sur nous, on peut faire des exploits. La Bible dit, avec une mâchoire d'âne, Samson a tué près de 1000 personnes. Avec une mâchoire d'âne. C'est-à-dire avec un squelette d'âne. Ok? Samson a tué près de 1000 Philistins. Mais ce n'était pas la mâchoire. Quand l'onction a touché la mâchoire d'âne, ce n'était plus une mâchoire d'âne. C'est devenu une âme redoutable pour vaincre l'ennemi. Et Dieu va nous utiliser dans ces derniers temps, dans les choses simples, mais l'onction va ajouter un plus, amen, à notre simplicité, et il y aura beaucoup d'efficacité. Et il faut croire à ces choses, alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, nous parlons d'un sujet, le pouvoir de la peur et notre destin, alléluia. Et notre destin, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit aide-moi, parce que je vais donner le meilleur de moi-même. Je bénis beaucoup le Seigneur. Pour ce mois, c'est un mois extraordinaire pour ma vie parce qu'il y a beaucoup de paix, il y a moins de combats. Et à chaque fois que j'essaie de me soucier de quelque chose, c'est comme si Dieu vient mettre la paix dans mon cœur et il me demande de rester tranquille. Et si Dieu me rassure, c'est qu'il y a des bonnes choses. Et je ne pense pas que Dieu peut me rassurer dans cette période sans te rassurer. Parce que c'est la saison des espoirs. Si Dieu parle à mon cœur, c'est que Dieu parle aussi à ton cœur. Alléluia. La Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et Paul dit, je ne mens point, ma conscience me rend témoignage. Alléluia. Le pouvoir de la peur est notre destinée ou notre destin. J'ai choisi comme sous-thème aujourd'hui, la peur d'oser. La peur d'oser. Amen. La peur d'oser, c'est quoi? C'est la peur d'entreprendre. La peur de s'élever. J'ai parlé aussi de la peur d'être différent. Hier, j'ai eu la grâce d'assister à une pastorale organisée par l'apôtre Jude Benjamin Goua, qui est le président de la Confédération. Donc je disais, j'ai eu la grâce d'assister à une pastorale. Et à la fin de la pastorale, il y a des pasteurs qui se sont approchés pour me souhaiter les meilleurs vœux. Et puis, il y a un qui m'a posé des questions que moi j'estime qui sont des questions bizarres. Il m'a dit ceci, il dit, toi, tu es déjà arrivé. J'ai dit, où? Il dit, tu es arrivé. Il dit, tu n'es plus de notre nombre, parce que quand on te regarde, on sent que tu es arrivé. Je lui ai dit, mon ami, pour toi, je suis arrivé parce que tu ne connais pas la vision que je poursuis. Je lui ai dit, la chapelle Rehoboth, au fait, n'est qu'une marche d'escalier. Et j'ai appelé cette marche d'escalier la deuxième marche d'escalier parce que la première marche d'escalier, c'était la chapelle des moissonneurs. Et la deuxième marche d'escalier, c'était la chapelle Rehoboth. Je l'ai dit, l'environnement que tu vois est une pensée du Seigneur parce que tu ne peux pas te développer si tu n'as pas un environnement. Tu ne peux pas t'élever si tu n'as pas un environnement. Et j'explique à ce pasteur, l'environnement joue un rôle important dans le développement de quelqu'un et dans le développement d'une vision et dans la poursuite d'une vision. Je l'ai dit maintenant, je suis à la deuxième marche d'escalier, la troisième marche d'escalier, c'est l'église des 5000 places. J'ai dit donc, ce que tu vois au fait, ce n'est qu'une maquette en vue de quelque chose de plus grand. Donc, je ne suis pas arrivé. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit, je ne suis pas arrivé, tu te trompes. J'ai dit, ce que tu vois, ce n'est que l'ombre. L'ombre, ce n'est pas ça, c'est l'ombre. Mais je ne peux pas atteindre 5000 places si je n'ai pas d'abord un environnement qui me donne une certaine crédibilité, un environnement qui me permet de m'améliorer dans ma mentalité, un environnement qui me permet d'améliorer mes performances, un environnement qui me permet de me positionner, de m'élever et d'influencer. Je dis voilà, c'est la raison d'être de Rehoboth. Mais là, troisième marche d'escalier, ce serait 5000 places. Et je lui ai dit, la quatrième marche d'escalier, ce serait l'Afrique. Amen. J'ai dit, je poursuis une vision. Il m'a dit, ah ça, on ne le savait pas. J'ai dit, oui, je poursuis une vision. Et j'ai commencé à lui parler. Je lui ai dit, tu sais, l'argent ne change pas quelqu'un. Il y a un autre qui s'est ajouté, un troisième, un quatrième et un cinquième. C'est un peu comme une mini-conférence. J'ai dit, tant que vous n'avez pas la révélation de l'argent, vous n'allez pas vous réaliser. J'ai dit, l'argent est juste un outil, un moyen que Dieu vous donne pour engendrer ce qu'il a déposé dans votre vie. J'ai dit, c'est tout, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans. J'ai dit, et vous devez comprendre ça, vous devez avancer. J'ai continué, j'ai dit à cette personne, si vous avez peur de faire des choses différentes, vous ne serez jamais différent. Vous allez ressembler à tout le monde. Si vous avez peur de vous démarquer, vous n'allez jamais faire des exploits. Vous tournerez toujours en rond. Je dis, quand on veut réussir, il faut prendre son courage à main. Il faut oser faire ce que d'autres n'ont pas fait. Il faut oser croire à son ministère et poser des actes. Vraiment, j'étais en train d'exhorter le pasteur. Je lui ai dit que si tu veux aller loin, la clé de ton ministère, c'est toi-même. J'ai dit, c'est toi-même. Je lui ai dit, la clé de ton ministère, c'est toi-même. Je lui ai dit, personne ne mange ta vie et personne ne peut bloquer ta vie. Je lui ai dit, ça, je ne crois pas à ça. Aucun sorcier, aucun être humain ne peut bloquer mon existence en dehors de moi-même. En dehors de moi-même. Même quand quelqu'un pose un acte qui a pour vision de nuire à ma vie, c'est la manière dont j'interprète l'acte qui va m'affecter, mais ce n'est pas l'acte que la personne pose qui va m'affecter. Tant que j'ai la mentalité qu'il faut, il peut poser tous les actes qu'il veut. Tant que je ne l'accorde pas de la valeur, il ne sera jamais célébré dans ma vie. Quelqu'un ici ne m'a pas compris. Il ne sera jamais célébré dans ma vie. Parce que ce qui m'affecte, c'est ce que je considère. Ce qui m'affecte, c'est ce que je nourris. Ce qui m'affecte, c'est ce que je consomme. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Donc personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut arrêter un homme qui a un focus, qui a un rêve. Un homme qui est borné dans la vision qu'il poursuit. Qui peut t'arrêter? Personne ne peut t'arrêter. Et je l'ai dit, tu sais, à partir de 2003, j'enseignais à mes collaborateurs et j'enseignais à mes brebis. Je leur disais, si vous voulez devenir plus dans la vie, devenez plus. J'ai dit, beaucoup n'ont pas compris ce message. Et je leur ai dit ceci, je suis triste de me rendre compte que la plupart des pasteurs sont aigris, sont découragés et sont convaincus que s'ils n'évoluent pas dans la vie, c'est parce qu'il y a un tel pasteur qui bloque sa vie. Il y a un tel qui bloque son ministère. J'ai dit, c'est faux. J'ai dit, c'est faux. Ça n'existe pas. J'ai dit, si tu veux devenir plus dans la vie, deviens toi-même plus. Ajoute un plus à ta mentalité. Élève-toi. Change ta vision. Et c'est le message que je veux vous donner ce matin. Vous voulez devenir plus dans la vie, eh bien, ajoutez un plus à votre vie. Amen. Ajoutez un plus à votre vie. On va revenir là-dessus. Et j'étais très content parce que je vais reprendre ça tout à l'heure avant de venir. J'ai tenté de revoir mes prédications de 2004. En fait, je peux vous faire sortir toutes mes prédications depuis 2003. Et j'ai tenté de regarder les prédications de 2004. Tout à l'heure, et j'avais les larmes aux yeux, de me rendre compte qu'il y a certaines choses que j'ai eu à dire. Il y a quelques années en arrière, ça s'est déjà réalisé. Et je reconsidérais encore les choses que j'avais enseignées. Vous voyez, j'ai tout dans un classeur. Toutes les prédications de cette année, j'ai trois classeurs. Qu'est-ce que vous faites de vos notes? Qu'est-ce que vous faites de ce que vous entendez? Est-ce que vous rejetez un coup d'œil dans vos notes, ou bien vous êtes tout simplement en train de faire une collection de quoi? Des cahiers de messages. À quoi ça vous sert de venir écouter votre pasteur
et de rester les mêmes. À quoi ça sert au pasteur d'enseigner si, au fait, ça n'apporte rien aux gens? À quoi ça nous sert de venir à l'église si c'est juste pour remplir une formalité religieuse, traditionnelle, qui dit, le dimanche, je dois aller à l'église pour me purifier de mes péchés de la semaine? Vous êtes complètement à côté. Vous êtes complètement à côté. Et je ne peux pas avoir donné ma vie au Seigneur depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 40 ans maintenant pour jouer. Pour jouer. Je disais à quelqu'un cette semaine, le ministère juste hier est un jeune ministère. Mais la personne de l'évangéliste Gaëtan, il y a 23 ans d'expérience dans la prédication. Il y a 23 ans d'expérience dans le suivi des âmes. Il y a 23 ans d'expérience dans le fait de résoudre les problèmes de l'homme. Il y a 23 ans d'expérience dans le fait d'étudier l'homme. Et le pasteur Patricia, il y a 24 ans d'expérience. Le révérend Francis, le révérend Gaspard, il y a 30 ans d'expérience. Donc, nous ne sommes pas des nouveaux prédicateurs, mais des vieux prédicateurs. On a commencé à être responsable, moi en particulier, depuis l'âge de 15 ans. Je commençais à résoudre des problèmes de famille. Je commençais à résoudre des problèmes mari et femme. Des problèmes des jeunes avec leur famille. Je commençais à prêcher très jeune. Quelqu'un qui s'élève aujourd'hui n'a pas les mêmes données que j'ai. Quelqu'un qui se positionne aujourd'hui n'a pas les mêmes années que j'ai. Quelqu'un qui se positionne aujourd'hui n'a pas l'expérience de la Bible que j'ai. C'est ça qui fait la différence. Et quand je parle de la sagesse, quand je parle des clés du succès, c'est parce que dans ces 23 ans-là, il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de frustrations et il y a beaucoup de déceptions. Si aujourd'hui je rectifie mon comportement, ma manière d'être, ma manière de parler, ma manière de concevoir des choses, c'est parce que, mes amis, il y a eu des hauts et des bas. Et si aujourd'hui j'en parle, c'est parce que je sais ce qui s'est passé dans ma vie. Donc, vous n'avez pas affaire à un débutant. Le bâtiment, c'est un jeune bâtiment. La commission JCR, c'est un jeune ministère. Les personnes de monsieur et de madame Piebi, c'est 23 ans et 24 ans d'expérience. C'est-à-dire, quand on commençait à prêcher l'évangile, certains même parmi vous n'étaient pas nés. Ouais? Quand vous prenez le jeune Steve, il n'était même pas encore venu au monde. Quand le pasteur Patricia a commencé. Parmi vous, il y a des gens qui sont nés en 84, en 85, en 86. Je parle ici de la naissance physique. C'est-à-dire, quand tu n'existais pas, je prêchais. Quelqu'un dit amen ici. Merci pour votre silence. Pourquoi j'en parle? C'est pour vous dire, si je vous enseigne quelque chose, je sais pourquoi je vous l'enseigne. Si je vous donne une clé, je sais pourquoi je vous donne une clé. Je n'enseigne pas avant d'éprouver mes convictions. Je peux avoir une conviction. Premièrement, le premier livre que j'utilise, c'est la Bible. Deuxièmement, je regarde aussi ce que des hommes crédibles, je dis bien crédibles, parce que je ne lis pas n'importe qui. Je lis Kenneth Hagin, je lis Murdoch, je lis Crawford Dollar, je lis Kenneth Copeland, je lis Max Monroe, je lis Billy Graham. C'est-à-dire, je lis les livres des personnes qui ont une expérience et qui ont fait leur preuve. C'est-à-dire, je n'étudie pas les perdants. Ça, c'était avant, mais maintenant, je les étudie. Je rectifie. Parce que je veux toujours connaître pourquoi les gens sont toujours un cercle infernal d'échecs. Pourquoi ils ne sortent pas de leurs problèmes? Pourquoi ils ne se positionnent pas? Pourquoi ça ne change pas? J'aimerais aussi connaître. Parce que leurs échecs m'enseignent quelque chose. Alléluia. Donc, la peur d'oser. La peur d'oser. Ce n'est pas au fait de la mode de parler de la peur, mais c'est une urgence à vaincre la peur. C'est au fait une nécessité de vous encourager à faire quelque chose. La peur d'oser. Alors, notre texte de méditation, le livre de Josué, le premier chapitre. Dieu nous a dit en début de cette année, il nous donnera quoi? L'onction Josué. Et l'onction Josué, c'est quoi? C'est l'onction de la conquête. C'est une onction qui nous permet de prendre possession des territoires. Dites, prendre possession des territoires. Dites ça avec autorité, prendre possession des territoires. Dites, Seigneur, donne-moi cette onction. Prendre possession des territoires. Il y a des territoires qu'il faut que je possède. il y a des sphères que je dois posséder. Dites-le encore, il y a des sphères que je dois posséder. Et il y a des sphères que je dois influencer. Maintenant, je vais utiliser une expression que beaucoup de jeunes prédicateurs aiment. Il y a des sphères que je dois impacter. Mais il n'y a pas d'impact si d'abord la Bible ne t'impacte pas dans ta mentalité. C'est bon? Très important. Alors, Josué, chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 1 et nous arrêtons au verset 9. Verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. J'ai dit verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Après quoi? Après la mort de qui? De Moïse. Qu'est-ce qui se passe? Dieu parle à Josué. Après quoi? La mort de Moïse. C'est comme si pendant que Moïse vivait, Dieu ne parlait pas à Josué. Ok? Je crois que Dieu parlait à Josué. Mais par rapport à la nouvelle dimension dans laquelle il devait rentrer, il ne pouvait pas l'atteindre si Moïse n'était pas mort. Et il y a des dimensions que nous n'allons jamais atteindre tant que le Moïse qui dirige notre vie n'est pas mort. Il y a un Moïse qui tient les rênes de notre vie. Il y a un Moïse qui nous oriente. Et ce Moïse-là, c'est celui qui même bâtit notre mentalité que nous avons aujourd'hui. Il y a des choses bizarres dans la Bible. La Bible dit, après la mort du roi Ozias, la parole de l'Éternel fut révélée au prophète Ésaïe. Donc, il était prophète dans la cour du roi, mais tant que le roi n'était pas mort, la Bible dit, Ésaïe n'avait pas reçu la révélation. C'est-à-dire, il y a des choses qui nous aveuglent. Et quand je parle d'un mort ici, je ne veux pas parler de mort physique, mais je parle de ces choses qui, au fait, nous aveuglent et nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel, nous empêchent d'écouter la voix de Dieu, des choses qui sont toujours en train de nous distraire au lieu de nous permettre d'avancer. Et quand ces choses commencent à disparaître dans notre vie, on écoute la voix de Dieu de manière audible. C'est pour ça que la Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, serviteur de Nun. Et là, Josué entend quelque chose. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur, est mort. Et au verset 2, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays, alléluia, que je donne aux enfants d'Israël. Moïse, mon serviteur, est mort maintenant. Est-ce qu'il faut pleurer? Non. Lève-toi, passe ce Jourdain. C'est-à-dire, ils étaient de l'autre côté du Jourdain. Ok? Et de l'autre côté, il y avait la terre promise, mais ils étaient de l'autre côté. Alors, vous devez dépasser vos limites. Il est temps de traverser votre Jourdain. Vous regardez vos faveurs en distance. Vous êtes de l'autre côté. La faveur est de l'autre côté. Traversez. Traversez la chose qui vous bloque jusque là. Pour eux, l'obstacle, c'était le Jourdain. Mais toi, tu connais ton obstacle. Moïse est mort. Si tu as fait un travail dans ta vie, où il y a certaines choses que tu as dû enlever, les choses qui te faisaient peur, je voudrais t'annoncer maintenant la deuxième étape de ta vie. Traverse. Si réellement tu as fait un travail, traverse maintenant. Traverse. Si réellement il y a des choses que tu as eu enlevées, traverse maintenant. La Bible ne dit pas pour prendre possession du pays que l'Éternel souhaite te donner. La Bible dit pour prendre possession du pays que Dieu donne aux enfants d'Israël. Amen. Donc il y a des bénédictions que Dieu te donne. Traverse. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Je vous donne le pays. Je vous donne des faveurs. C'est l'année des exploits. Mais ce que tu vas posséder, c'est la chose que tu as osé fouler. Ok? La terre que tu vas posséder, c'est la terre sur laquelle tu te tiendras. C'est bon? Donc le problème ne se trouve plus au niveau de Dieu. Le problème se trouve à votre niveau. Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Éthiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Gloire à Dieu. C'est une saison où Dieu même va vous dire jusqu'où s'étendra votre bénédiction. Si Dieu a pu dire à Abraham, lève tes yeux, regarde, aussi loin que s'étendra ton regard, telle sera ta postérité. Je te donnerai une postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. Mais il dit quand même ceci à Abraham, lève tes yeux et regarde, aussi loin que s'étendra ton regard, je te donne ce lieu en possession. C'est-à-dire, la bénédiction de Dieu s'arrête dans ta vie, juste à l'endroit où tu as décidé de t'arrêter. My God! Vous ne m'avez pas compris. Donc, en fait, c'est vous-même qui déterminez là où la bénédiction de Dieu doit s'arrêter dans votre vie. Ce que vous mangez aujourd'hui, c'est ce que vous avez décidé. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ce que vous avez décidé. En réalité, Dieu va aller loin avec vous, mais c'est vous qui mettez les bornes. La bénédiction de Dieu n'a pas de bornes. La possession de Dieu n'a pas de bornes. Dieu n'a pas de limites quand il veut te gaspiller. Dieu n'a pas de limites quand il veut te bénir. Mais c'est toi-même qui dis, je veux m'arrêter là. Pour moi, ça suffit. Il dit aussi loin que s'étendra ton regard, je te donne. Nous prions un Dieu sans limites. Mais qui a des serviteurs limités? Nous prions Dieu sans limite, mais qui a des enfants limités? Limités par quoi? Par les circonstances. Limités par quoi? Par ce qu'ils voient. Limités par quoi? Par ce qu'ils ressentent. Limités par quoi? Par leur paradigme. Limités par quoi? Par leurs préjugés. Limités par quoi? Par ce qu'ils ressentent dans leur corps. Un Dieu sans limite avec un peuple limité. 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Nul ne tiendra. Je dis nul ne tiendra. Nul ne tiendra. Où? Devant toi. C'est-à-dire, toute chose qui se positionne devant toi ne tiendra pas. Vous ne m'avez pas compris. Je dis, toute chose qui se positionne devant toi ne tiendra pas. C'est ce que la Bible déclare. Nul ne tiendra devant toi. Eh bien, s'il y a les sorciers qui veulent essayer pour savoir si ça marche, me voici Gaëtan, lancez-vous. Et vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas tenir. Nul ne tiendra. Personne ne pourra déstabiliser ma nation. Personne ne pourra maudire le Gabon. Aussi longtemps que je suis un homme de Dieu établi sur cette nation, un prophète de l'Éternel, je déclarerai ce que Dieu a dit. Nul ne tiendra. Nul ne tiendra. Parce que ce pays est entre les mains de Dieu. Nul ne tiendra. Nul ne tiendra. Nul ne tiendra. La Bible ne dit pas devant ton frère, devant toi. Devant toi. Donc n'aie pas peur quand les choses se positionnent devant toi. Nul ne tiendra. À chaque fois qu'une épreuve se dresse devant toi, dis doucement, nul ne tiendra. Est-ce qu'il y a les difficultés qui sont levées? Depuis le début de l'année devant toi, dis doucement, nul ne tiendra. Et pendant que tu avances vers la chose, tu dis, nul ne tiendra. Et pendant que tu es dans l'action, dis, nul ne tiendra. Et pendant que tu es tenté d'aller prendre possession de tes possessions, dis, nul ne tiendra. Dis, nul ne tiendra. Lève-toi et dis-le, nul ne tiendra. Dis-le avec autorité, nul ne tiendra. Dis-le encore, nul ne tiendra. Dis-le encore, nul ne tiendra. Dis-le encore, nul ne tiendra. Nul ne tiendra. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il y a des promesses où Dieu a juré. Et ces promesses, elles sont irrévocables. Dieu a juré quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, j'ai juré. Pour ce qui concerne la terre, il dit, j'ai juré. Tu posséderas la terre. Oh, quelqu'un ici ne m'a pas entendu. Il dit, j'ai juré. Il dit, j'ai juré. Il y a des faveurs où Dieu a pris un décret divin. Aucun sorcier ne peut modifier ça dans ta vie. Il dit, j'ai juré. Mais la seule chose qui te dit, fortifie-toi. C'est-à-dire, développe-toi. Deviens fort. Change les mentalités. Élève-toi. Positionne-toi. Aspire. Aspire. Développe-toi. Ajoute un plus à ta vie. Positionne-toi. Change ta vision. Vois les choses comme Dieu veut que tu puisses les voir. Arrête d'être un enfant. Deviens un adulte. Et comprends ce que Dieu veut faire avec toi. Fortifie-toi. Et prends courage. C'est toi, pas quelqu'un d'autre. Il n'est pas dit, c'est l'évangéliste Gaëtan qui le fera pour toi. Il dit, c'est toi. Il dit, c'est toi. Il dit, c'est toi. Il dit, c'est toi. Pourquoi c'est toi? Parce qu'il n'y a pas une autre personne que toi. Il n'y a pas une autre personne que toi. Il n'y a pas une autre personne que toi. J'aimerais vous dire quelque chose. La chose qui vous hérite, c'est un signe de l'appel de Dieu dans votre vie. Tout ce qui vous attriste, c'est un signe d'un appel de Dieu dans votre vie. Tout ce qui vous attriste, c'est la preuve que Dieu vous appelle à résoudre ce problème-là. Donc, ce qui t'attriste, ce n'est pas ce qui m'attriste. Waouh. Lève les mains, dis merci Seigneur, aide-moi ce matin, dis-le. Apprenez à prendre de bonnes résolutions. Oh, je sens que les hôtels au Gabon, ça ne marche pas. Comprends que c'est toi que Dieu appelle à résoudre ça. Alors, je te demande de créer des hôtels. Il faudrait que vous arriviez à interpréter le langage divin. La Bible dit, celui qui produit en vous le vouloir et le faire. Le vouloir, c'est-à-dire celui qui dépose en vous des désirs. Celui qui dépose en vous ces sensations-là. Quand vous sentez que dans le pays, il y a quelque chose qui ne va pas, comprenez que Dieu vous appelle à résoudre un problème. C'est votre appel. Ne viens pas me voir en disant, pasteur, il faut que non. Viens me voir pour dire, pasteur, mets-moi la main, ouins-moi, afin que j'aille changer ça et je reviendrai te faire le rapport. 7. Fortifie-toi seulement et bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Vous voulez réussir? Constance. Vous voulez réussir? Concentration. Vous voulez réussir? Pas de compromis. Ni à gauche, ni à droite. Alléluia. Ni à gauche, ni à droite. C'est-à-dire, regarde devant toi. Pendant que tu te fortifies, pendant que tu te développes, pendant que tu es en train de t'améliorer, prends courage et agis fidèlement. Selon tout ce qui était, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Selon toute la loi. Votre action a besoin de connaissance. Votre action a besoin d'un plus. Ce plus, c'est la connaissance. Votre foi a besoin de la connaissance. Et Josué devait lire la loi pour connaître ce que Moïse l'a prescrit. Vous voyez, dans la parole de Dieu, il y a des choses que Dieu a prescrites pour nous tous. Et puis, il y a des choses spécifiques à ta vie. Et les choses qui sont spécifiques à ta vie, ne viens pas le prêcher à tout le monde. Parce que personne ne te comprendra, c'est les choses qui sont liées à ta paix. C'est pour ça que la Bible déclare, si toi aussi tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, les choses qui appartiennent à ma paix ne t'apporteront pas la paix. Les choses qui appartiennent à ma paix m'apporteront à moi la paix, mais ça ne t'apportera pas la paix. Parce que les choses qui appartiennent à ma paix sont liées à des circonstances. Et ces circonstances-là, moi je peux les porter, tu ne peux pas les porter. Ok? Les fardeaux que je porte, tu ne peux pas les porter. Les fardeaux que tu portes, je ne peux pas les porter. La vision que tu poursuis, je ne peux pas la poursuivre. La vision que je poursuis, tu ne peux pas la poursuivre. La compréhension des événements que tu as, je ne l'ai pas. 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dites succès. Dites réussite. Dites succès. Dites réussite. Et pourtant, c'est un mot qui est contesté dans le milieu pentecôtiste et charismatique. Mais c'est quand même étonnant que ce mot, Dieu ose le prononcer. Ces mots-là, Dieu ose dire succès. Et Dieu ose dire réussite. Aïe! Hey! Hey Dieu, tu as péché là, réponds-toi. Permets-moi d'ajouter au nom de ton fils Jésus. Qu'est-ce que Dieu fait sortir de sa bouche? Succès. Et il dit quoi? Est-ce que c'est Dieu qui parle de ça? Dieu parle de quoi? Il parle de quoi? Mais il parle ici à un leader. Et qu'est-ce qu'il dit à ce leader? Succès. Il dit quoi à ce leader? Réussite. Et qu'est-ce que Dieu vous dit en cette saison? Succès, réussite. Mais remarquez bien, dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Sur le chemin du succès, de la réussite, la langue joue un rôle important. J'ai dit sur le chemin du succès, de la réussite, la langue joue un rôle important. C'est pour ça que Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et Dieu lui donne même un programme de méditation pour dompter sa langue. C'est-à-dire, parle la parole au jour, parle la parole la nuit. Parle la parole quand tout va bien, parle la parole quand tout va mal. C'est-à-dire, ne modifie pas ton langage. Quand tu es sur le chemin du succès, de la réussite, il y aura la nuit, il y aura le jour, mais que la parole ne s'éloigne point de ta bouche. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? J'ai dit, quand on est sur le chemin du succès et de la réussite, il y aura la nuit, il y aura le jour, il y aura les difficultés, il y aura la joie, il y aura l'élévation, il y aura aussi le fait qu'on essaie de te rabaisser. Il y aura les acclamations, il y aura l'opposition. Mais attention, le jour et la nuit ne doivent pas modifier ton langage. 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Aïe, un autre mot bizarre, qui ressemble à provocante. Mais là, ça te prendrait. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu parle d'entreprise. Beaucoup n'ont pas compris. Regardez bien. Je serai avec toi dans tout ce que j'entreprendrai. Alléluia. Faux. 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 Regardez votre Bible. Tout le monde. Ouvrez. Ouvrez. Rapidement. Regardez. Tout le monde. Allez, encadrez ça. Prenez les bics. Encadrez. L'église, c'est l'école biblique aussi. Je serai avec toi dans tout ce que moi, l'Éternel, j'entreprendrai. Que quelqu'un dit amen avec autorité. Ça va? Contente? Ok. Vous l'avez encadré? Maintenant, levez-vous avec votre Bible, sans regarder le diapo. Et vous lisez juste ce texte. Vous le lisez en regardant la Bible. Après, vous le mémorisez, vous fermez vos yeux, vous le répétez. Ok? Et les gens de problème, tout le monde se tient debout. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Attention! Attention, 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 le cerveau ne vieillit pas. Le cerveau est un muscle. Qu'importe votre âge, tant que vous l'exercez, le cerveau se développe. Moins vous l'utilisez, moins il se développe. Si vous n'utilisez pas votre cerveau, il perd ses capacités. Le cerveau ne vieillit pas. Le cerveau est un muscle. Plus vous lui donnez des données, il accumule. Il développe complètement son potentiel. Donc, quand je dis vous lisez une fois, après vous mémorisez, ne dites pas oh, paresseux, au nom de Jésus, je sens l'esprit de la paresse de ce lieu ce matin. Nous lisons le verset 9. 1, 2, 3, avec autorité, tout le monde. L'Éternel ton Dieu est avec autorité. L'Éternel ton Dieu est avec. Encore une fois. Encore une fois. Maintenant, fermez vos yeux, dites l'Éternel mon Dieu est avec moi dans tout ce que j'entreprendrai. 1, 2, 3. Encore une fois. Et vous gardez les yeux fermés pendant que vous parlez, vous visionnez la chose, vous visionnez le défi, vous visionnez le but que vous poursuivez. Une, deux, trois, dites-le. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Ouvrez vos yeux, regardez-moi. Vous tenez la Bible d'un côté, vous fermez le poing de l'autre. Il faudrait faire descendre cette parole avec conviction. Et ensuite, je vais vous donner la clé de la parole. Vous tenez le texte dans une main, la main gauche et la main droite. Fermez bien le poing. Et quand vous fermez vos yeux, regardez-moi, vous mettez le poing devant vous. Quand vous fermez vos yeux, vous voyez la chose. Dites-le, une, deux, trois. Dites-le encore. Encore une fois. Encore une fois. Gardez les yeux fermés. Il y a des gens qui vous ont dit, vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas vous élever. Vous êtes une source de malédiction. Les autres peuvent réussir, sauf vous. Vous êtes l'incarnation de l'échec. Pliez bien votre poing. Regardez le but que vous poursuivez. Confessez-le. Dites-le encore. Encore une fois. Encore une fois. Gardez vos yeux fermés, regardez bien la vision. Si vous me suivez à la télé, je m'adresse également à vous. Regardez bien la chose. Étanchez-vous, levez-vous, faites comme nous. Visionnez la chose. Fermez votre poing, voyez la chose et confessez-le encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. J'ai dit, regardez bien la chose, ne reculez pas. Même si vous avez connu l'échec, ne reculez pas. Je parle également à ceux qui nous suivent à la télé. J'ai dit, ne reculez pas. Regardez la chose en face. Fermez votre coup de poing et dites-le encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Maintenant, asseyez-vous dans la tranquillité. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car l'Éternel, ton Dieu, d'abord, un, vous devez comprendre que Dieu s'identifie à vous. Dieu vient à votre niveau. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, il dit, est avec toi. Donc, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Où? Où? Dans tout ce que tu entreprendras. Donc, il n'est pas avec toi quand tu n'entreprends pas. Il n'est pas avec toi quand tu ne t'élèves pas. Il n'est pas avec toi quand tu es dans l'oisivité. Il n'est pas avec toi quand tu es dans les plaintes. Il n'est pas avec toi quand tu es dans les calomnies. Il n'est pas avec toi quand tu es tenté de maudire ta vie. Il n'est pas avec toi quand tu n'as pas le langage de la foi. Il n'est pas avec toi quand tu ne te positionnes pas. Il n'est pas avec toi quand tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie. Il n'est pas avec toi quand tu n'as pas de but. Il n'est pas avec toi si tu ne oses pas t'élever, faire la différence. Il serait avec toi à chaque fois que tu t'élèveras, à chaque fois que tu vas entreprendre, à chaque fois que tu vas oser faire quelque chose. Il dit, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendra. Donc c'est la saison de quoi? C'est la saison de quoi? C'est la saison d'entreprendre. C'est la saison des entreprises. C'est la saison des projets. C'est la saison des défis. C'est la saison des exploits. C'est la saison où il faut penser grand. C'est la saison où il faut oser croire. Oser croire, oser penser. C'est-à-dire, si on ne t'a jamais demandé de penser, ose penser. Parce que si tu penses, personne ne saura ce que tu penses. Ose penser. Il y a des gens même qui n'osent plus penser. Ose penser. Et je te le demande, ose penser. Ose penser. Ose penser différemment de ceux de ta famille. Ose penser différemment de ta communauté. Ose penser. Ose. Ose penser. Même si les gens disent que c'est impossible, ose penser. Dieu préfère mille fois travailler avec quelqu'un qui a un rêve qu'avec quelqu'un qui n'a pas de rêve. Écoutez. Qu'est-ce que c'est que la peur? Nous l'avons vu, je le répète encore. Un, la peur est une émotion qui survient à chaque fois que nous rencontrons quoi? Une difficulté ou un obstacle. Donc la crainte c'est quoi? C'est une émotion. Si je gère mes émotions, j'ai la victoire sur la crainte. Si je ne sais pas gérer mes émotions, je ne pourrai jamais avoir la victoire sur la crainte. C'est à moi de canaliser mes émotions. Et quand je me lève pour un nouvel défi et que les gens me disent c'est impossible, sur la base de ce que j'écoute des gens, j'ai peur. Je dis l'Éternel est avec moi dans tout ce que j'entreprendrai. Je parle à mon âme, je dis calme-toi, on réussira. Deuxièmement, la peur est quoi? Un état d'esprit qui naît et nous envahit toutes les fois que nous désobéissons ou violons un principe établi par Dieu. Donc c'est la saison où tu ne dois pas violer la loi de Dieu. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que dans le texte que nous venons de lire, de Josué chapitre 1, le verset 9, Dieu dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre, c'est un commandement, c'est un ordre, c'est un commandement. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, c'est un ordre. Et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors, mes amis, changez votre monde de pensée. Changez votre monde de pensée. Vous êtes appelés à réussir. Amen. Si vous ne changez pas votre monde de pensée, vous n'allez jamais vous élever et vous n'allez jamais apprendre à changer vos émotions ou bien vous n'allez jamais apprendre à dompter vos émotions. Proverbe 23, le verset 7 dit, « Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur ne point avec toi, car il est comme les pensées de son âme. » C'est-à-dire, la manière dont il agit, la manière dont il réagit, c'est tout simplement le reflet de ce qu'il est, de ce qu'il pense, de ce qu'il croit. C'est le reflet de ses paradigmes, de ses croyances. Le reflet de quoi? Le reflet de ses forteresses dans sa tête. C'est pour ça qu'il a peur d'oser. Vous êtes le reflet de vos pensées. Et ce que vous pensez, c'est rien d'autre que vos croyances. Vos croyances, vos expériences qui se sont transformées à des croyances. Et des croyances qui sont devenues pour vous des principes. Et quand on veut aspirer au changement, quand on veut voir les choses changer, le premier travail qu'on fait, c'est d'abord en nous-mêmes. On se reprogramme. Le changement se produit d'abord à l'intérieur, ensuite, pouf, il influence l'extérieur. L'extérieur n'est que la conséquence de ce que vous êtes intérieurement. Donc, comment savoir si j'avance? Je regarde aussi mon environnement. Parce que mon environnement doit refléter mes croyances. Ma manière de me développer doit refléter mes croyances. Pourquoi les gens disent qu'au Gabon, ça ne va pas? Parce que tout simplement, mes amis, nous avons un problème dans nos têtes. Tant que nous n'avons pas, mes amis, un rêve pour le Gabon, on ne fera rien pour cette nation. Tant que les Africains n'ont pas un rêve pour l'Afrique, ils ne feront rien pour l'Afrique. Et ce que vous voyez souvent se répéter, c'est tout simplement ce qui est à l'intérieur des gens. Et même si vous vous pensez autrement, tant que eux, ils ne pensent pas autrement et qu'ils ont le pouvoir de décision, vous aurez toujours les mêmes choses. Quand on parle d'un changement de mentalité, on parle au fait d'un changement de croyance. C'est-à-dire, on revoit nos croyances. Et quand on revoit nos croyances, on revoit aussi notre politique. Et quand on revoit notre politique, on revoit aussi notre système de gestion. Et quand on revoit notre système de gestion, c'est qu'on revoit aussi notre manière de planifier les choses. Mais la base de tout ça, ce sont nos croyances. Ce sont nos croyances. Ce sont nos croyances. Et ce n'est pas quelque chose qui va partir du jour au lendemain. C'est 40 ans de croyances. Ne rêvez pas. Depuis le ventre de votre mère, vous avez ressenti les effets de cette croyance. Vous êtes né là-dedans. Et 40 ans, c'est une génération. Une génération qui a une manière de penser et de concevoir les choses. Voilà pourquoi l'Église ne doit pas se replier en disant « Le pays est maudit, nous ne sommes pas dedans ». L'Église doit être une réponse pour les dirigeants. Comment? Par la qualité de son enseignement. Et l'Église doit être l'échantillon d'une nation. C'est-à-dire, les chrétiens gabonais qui prient doivent être capables de démontrer qu'un Gabonais peut avoir des sentiments nobles et être utile à sa nation. Comment? Par ce que l'Église fait, elle deviendra une voie d'espoir pour ceux qui ont peur de changer leur paradigme. Parce que quand vous êtes habitué dans une certaine manière de penser, et qu'on vous amène une nouvelle manière de penser, la nouvelle manière de penser crée en vous l'insécurité. Des fois, ce n'est pas que les gens ne veulent pas changer, mais la nouvelle manière de penser les conduit à quoi? À l'inconnu. Et l'inconnu fait toujours peur à l'homme. Je ne sais pas si j'essaie de vous aider. Mon rôle, c'est d'aider. Mon rôle, c'est d'apporter les solutions. Je ne suis pas un prophète de mensonges. La Bible ne dit pas que c'est le mensonge qui délivre. La Bible dit « Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » C'est la vérité qui nous a franchis. Et la vérité qui nous a franchis, c'est la vérité que nous avons acceptée. C'est pour ça, même quand la plus haute autorité aspire à changer les choses, si ceux qui sont aussi à côté n'ont pas connu un métanoïa dans la manière de penser, ce serait toujours un obstacle. Parce qu'on peut être au pouvoir. Mais quand tu es au pouvoir, il y a les hommes d'influence du pouvoir. Et c'est ce qu'une personne voulait vous dire quand il dit les amis du roi ne sont pas toujours dans la cour du roi. C'est-à-dire, tout ce qui influence le roi, ce n'est pas forcément ceux qui boivent et dansent dans la cour du roi. Tu peux être un ami du roi sans être dans la cour du roi et influencer le roi. Mais on ne peut pas vouloir voir l'Afrique changer tout en étant ce que nous sommes. Le changement doit commencer d'abord en nous. Le déclic, c'est d'abord nous. Et si vous voulez, je vous lance un défi. Enlevez ceux qui sont là depuis, mettez les nouveaux, vous allez voir pire. Pourquoi? C'est une question de mentalité forgée. Gaëtan, ferme ça. Et quelqu'un me dit ici, ferme ça. Gloire à Dieu. Car il est comme les pensées de son âme. Et Murdoch m'a énervé un jour, et je n'étais pas d'accord avec lui, tout en étant d'accord avec lui. Je n'étais pas d'accord avec lui, tout en étant d'accord avec lui. Je n'étais pas d'accord avec lui, tout en étant d'accord avec lui. Et je n'étais pas d'accord avec lui parce que ce qu'il a dit m'a fait mal, mais tout en sachant que ce qu'il m'a dit est la vérité. Donc je n'étais pas d'accord avec lui, tout en étant d'accord avec lui. Quelqu'un me dit ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les États africains sont le reflet des leaders spirituels des nations qui composent ces États. Dites-moi encore, qu'est-ce qu'il a dit? En français courant. Les États africains sont le reflet du leadership pastoral des pasteurs implantés dans ces nations. Donc, je n'étais pas d'accord avec lui, et j'étais d'accord avec lui. Mais je n'étais pas d'accord avec lui, mais j'étais d'accord avec lui. Je n'étais pas d'accord parce que cette vérité m'a fait mal, mais j'étais aussi d'accord parce que c'était la vérité. Et vous allez me dire, mais quelle est la preuve? La preuve, c'est ce que le Christ nous a dit. Vous êtes la lumière du monde. Et on n'a pas compris ça. L'Église ne s'est pas rendue compte quelle influence. Regardez, vous allez me dire comment? Mais regardez, qu'est-ce que je tiens devant moi? Vous qui êtes là, je tiens quoi? Je tiens une portion du Gabon. J'ai une portion du Gabon devant moi. Dans une église à côté, il y a une portion du Gabon. Dans une autre église, il y a une portion du Gabon. Dans une autre église, il y a une portion du Gabon. Et dans toute la nation, il y a une portion du Gabon. Donc, qui tient le Gabon? C'est les pasteurs. Maintenant, ce que chaque pasteur donne au Gabonais détermine ce que le Gabonais va être dans la société. Parce qu'il est prouvé que les hommes politiques sont moins présents dans la vie des Gabonais que le sont les pasteurs. Et vous n'êtes pas d'accord avec moi, tout en étant d'accord avec moi. Vous n'êtes pas d'accord avec moi parce que c'est la vérité. Mais vous êtes d'accord aussi parce que vous savez que c'est la vérité, tout en n'étant pas d'accord avec moi, mais c'est quand même la vérité. Donc qui parle plus aux Gabonais? Les pasteurs. Qui éduque plus les Gabonais? Les pasteurs. Question, qu'est-ce qu'il donne? Deuxième question, il est conduit où? Si quelqu'un me répond à la télé, il est conduit dans la vérité se reconnaîtra par le fruit. C'est-à-dire, si les Gabonais n'évoluent pas dans leur mentalité, les pasteurs doivent revoir le message qu'ils annoncent. Parce que dans l'auditoire du Christ, Les prostituées venaient prostituer, elles ressortaient femmes remplies de dignité. C'est pour ça que le Christ a osé dire, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, le message que le Christ apportait introduisait les gens dans le repos total. La compréhension du degré de la parole, la révélation qu'il apportait changeait les mentalités. Et un roi a dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pour finir, qui fait donc la société gabonaise? Les pasteurs et les prêtres. Et j'irai même très loin, je vais même encore vous dire quelque chose. Au-delà de la population, et vous avez même dans l'auditoire des personnalités qui tiennent les rênes des décisions du pays. Donc, qui a le pouvoir, normalement? C'est les pasteurs et les prêtres. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils enseignent? À chacun de trouver sa réponse.
Pour la suite de votre étude, veuillez insérer le CD numéro 15. En espérant que ce message vous a été en bénédiction, nous vous encourageons à vous procurer le catalogue de nos productions audiovisuelles au numéro suivant 00 241 07 29 68 47 et au 00 241 07 39 82 79 ou à l'adresse email suivante missionjcr@yahoo.fr. Merci et que Dieu vous bénisse.